propriétaire lettré, administrateur et contrôle social. Les rapports détaillés issus des recensements permettent de préciser plusieurs caractéristiques importantes des populations recensées. Dans la province de Madras, en 1871, les Brahmanes représentent en moyenne 3,7% de la population, avec des variations allant de 1,5% à 13,1% suivant les districts. On constate que les Brahmanes occupent une position fortement dominante dans l'éducation. 70% des étudiants de Madras sont des Brahmanes. Dans les professions savantes, entre 60% et 70% des enseignants, médecins, juristes, comptables, astrologues de la province sont brahmanes. Mais aussi dans la propriété rurale. 40% des personnes classées comme propriétaires terriens sont des brahmanes, contre seulement 20% pour les kshatriyas. Et cette part atteint 60% dans certains districts. L'administrateur qui commente ces tableaux est encore plus explicite que Nesfield. D'après lui, la domination exercée par les Brahmanes sur les autres classes est tellement oppressante que, si les Britanniques quittaient le pays, le chaos politique et la révolte s'en suivraient immédiatement. La remarque est révélatrice. Les colons britanniques s'appuient sur les élites locales brahmanes pour contrôler et administrer le pays, tout en dénonçant leur empreinte tyrannique sur l'Inde, afin de mieux justifier leur mission civilisatrice. Tout cela en oubliant au passage que la concentration de la propriété et du pouvoir politique est au moins aussi extrême au Royaume-Uni, où les absentee landlords viennent de laisser mourir de faim une partie de la population irlandaise et où de grands bouleversements se préparent. Les autres recensements confirment cette extrême concentration des ressources à la fois éducatives et patrimoniales aux mains de ceux que les recensements regroupent dans la catégorie des brahmanes, ou plutôt des hommes brahmanes, car tous les éléments disponibles indiquent une société hautement patriarcale. En 1891, le recensement conclut que seuls 10,4% des hommes du British Raj sont alphabétisés, 0,5% des femmes. Parmi les brahmanes, ce taux atteint 72,2% pour les hommes dans la province de Madras, 3,8% pour les femmes, et 65,8% dans celle de Mumbai, 3,3% pour les femmes. La seule province où l'alphabétisation atteint un niveau significatif est la Birmanie, où plus de 95% de la population est enregistrée comme bouddhiste. Il s'agit de la seule région où le bouddhisme a détrôné l'hindouisme, et où le taux moyen d'alphabétisation atteint 44,3%, mais seulement 3,8% pour les femmes. Cette belle performance est attribuée par les administrateurs coloniaux aux moines bouddhistes et à leurs écoles. En réalité, personne ne sait très bien dans quelle mesure les agents recenseurs évaluaient véritablement les compétences des uns et des autres, ou se contentaient de retranscrire leurs propres préjugés ou ceux des chefs de famille auxquels ils s'adressaient. Ces chiffres sont néanmoins suggestifs. Lors du recensement de 1911, le taux d'alphabétisation des femmes atteint 11,3% parmi les brahmanes du Bengale, contre 64,5% pour les hommes brahmanes. C'est peu, mais en net progrès, et suffisant pour que les femmes brahmanes représentent plus de 60% du total des femmes alphabétisées de la province, alors que les hommes brahmanes ne constituent que 30% des hommes alphabétisés, ce qui est déjà considérable. Dans la plupart des provinces, on constate que les brahmanes font au moins jeu égal avec les rajputs et les kshatris en termes de propriété terrienne, et se situent généralement à un niveau plus élevé. En termes d'éducation, l'écart est abyssal. Les brahmanes sont incomparablement plus avancés que les kshatriyas, dont les ressources culturelles et intellectuelles apparaissent très faibles, entre 10 et 15% de taux d'alphabétisation chez les hommes rajputs dans la plupart des provinces, donc à peine plus que la moyenne du pays. Il faut toutefois souligner que l'avance éducative varie suivant les régions et qu'elle est moins forte en Inde du Nord, où les brahmanes sont très nombreux et où leur taux d'alphabétisation tombe parfois à 20-30%, qu'en Inde du Sud, où les brahmanes constituent une élite beaucoup plus fine, 2-3% de la population et non 10%, alphabétisés à plus de 60-70%. La seule caste dont le capital éducatif et intellectuel atteint et dépasse même parfois celui des brahmanes est le petit groupe des kayastes, qui regroupait environ 1% de la population indienne et plus de 2% au Bengale dans les recensements et qui était particulièrement intrigant pour les administrateurs coloniaux. Les Kayastes appartenaient clairement aux plus hautes castes, mais il paraissait impossible de les classer comme brahmanes ou comme kshatriyas, et ils étaient donc traités à part. Plusieurs récits largement invérifiables leur prêtaient diverses origines. Selon une légende ancienne, une reine Kshatri, en difficulté, aurait promis que ses fils deviendraient écrivains et comptables et non guerriers, afin que l'ennemi leur laisse la vie sauve. Plus probablement, les Kayastes auraient été issus d'anciennes lignées guerrières Kshatriya ou Kshatri, qui auraient voulu que certains de leurs fils occupent les fonctions de lettrés et d'administrateurs, afin de s'autonomiser de la tutelle des brahmanes et de disposer de leurs propres lettrés. Ce qui est une tentation assez naturelle qui a dû souvent survenir dans l'histoire des dynasties indiennes et a très probablement contribué à nourrir et renouveler les rangs des brahmanes. En l'occurrence, les Kayastes s'autorisaient la consommation d'alcool, comme les Kshatriyas, mais à l'inverse des brahmanes, ce qui, d'après les administrateurs britanniques, confirmait leurs origines complexes. En dehors de cela, ils ressemblaient en tout point aux brahmanes, qu'ils avaient même dépassé dans certains cas en termes de performance éducative et d'accès aux fonctions administratives élevées et aux professions savantes. Les Kayastes étaient réputés avoir très vite acquis des compétences en langue ourdou, afin de se mettre au service des empereurs moghols et des sultans musulmans, et ils firent de même avec la langue anglaise pour accéder à l'administration coloniale britannique. De façon générale, il faut souligner que les recensements des castes n'étaient pas là uniquement pour satisfaire la curiosité ou le goût pour l'exotisme et l'orientalisme des savants britanniques et européens. Ils jouaient également, et surtout, un rôle central dans le gouvernement de l'Inde coloniale. Ils permettaient tout d'abord aux Britanniques de connaître les groupes sur lesquels ils pouvaient s'appuyer pour remplir des hautes fonctions administratives ou militaires ou pour faire payer l'impôt. L'enjeu de connaissance était d'autant plus crucial que la population d'origine britannique était extrêmement limitée dans l'Empire des Indes, toujours moins de 0,1% de la population totale. Seule une excellente organisation pouvait permettre de faire tenir un tel édifice. Tout en bas de l'échelle sociale, les recensements des castes avaient également pour fonction d'identifier les classes susceptibles de poser des problèmes, et en particulier les castes criminelles, qui étaient des groupes répertoriés en fonction de leur goût avéré pour les rapines et les comportements déviants. Le Criminal Tribes and Castes Act, qui permettait d'arrêter et d'emprisonner suivant des procédures accélérées les membres de ces groupes, a ainsi été régulièrement durci de 1871 à 1911. Les Britanniques eurent largement recours au travail forcé en Inde, notamment pour la construction de routes à la façon des corvées et des prestations utilisées en Afrique française, et les recensements de castes permettaient de mieux évaluer les groupes susceptibles d'être recrutés. De façon générale, on constate dans le contexte du British Raj une certaine sophistication dans l'utilisation des lois sur le vagabondage pour mobiliser le travail. Lorsque les propriétaires éprouvent des difficultés de recrutement dans les plantations de thé et de coton à la fin du XIXe siècle, on observe par exemple un durcissement de ces lois, ce qui accélère les embauches. Entre le cas des hautes castes d'administrateurs et celui des castes criminelles ou quasi-serviles, il existe toute une série de classes intermédiaires, et en particulier de castes agricoles, qui ont également joué un rôle central dans le gouvernement de l'Inde coloniale. Au Punjab, le Land Alienation Act de 1901 décida par exemple de réserver l'achat et la vente de terres à un groupe spécifique de castes agricoles dont les contours étaient redéfinis par la même occasion. Il s'agissait officiellement de rassurer certaines classes de paysans lourdement endettés dont les terres risquaient d'être accaparées par des créditeurs et prêteurs sur gage. Les émeutes rurales, qui menaçait de se développer, inquiétait d'autant plus les autorités britanniques que les castes agricoles en question formaient traditionnellement un canal important de recrutement militaire. La redéfinition des castes entraîna toutefois de multiples conflits lors des recensements suivants, car de nombreux groupes ruraux demandèrent et réussirent à changer de caste pour accéder aux terres. Le point essentiel et que les catégories administratives créées par les Britanniques pour réguler le pays et distribuer les droits et les devoirs n'avaient souvent qu'un rapport lointain avec les identités sociales des uns et des autres, si bien que cette politique d'assignation identitaire bouleversa profondément les structures sociales et aboutit, dans de nombreux cas, au durcissement des frontières entre groupes autrefois flexibles et au développement de tensions et d'antagonismes nouveaux. Par rapport à leurs ambitions initiales, consistant à répartir la population suivant les Varnas du Manus Mriti, les autorités coloniales avaient largement dû revenir en arrière. Les Kshatriyas n'existaient plus vraiment que sous l'appellation des Rajputs et aussi des Kshatris, mais de façon plus confidentielle. Quant aux Vaishyas, les artisans, commerçants et paysans libres du Manus Mriti, ils étaient introuvables en tant que tels. Il existait certes une grande diversité de petits groupes professionnels locaux qui auraient pu être rattachés à cette vaste catégorie, mais cet ensemble ne comportait aucune unité à l'échelle du pays, sauf peut-être pour ce qui concerne les Baniyas, commerçants, que les autorités britanniques entreprirent de comptabiliser comme tels et de rattacher au groupe des deux fois nés des Vaishyas. Lors des premiers recensements, l'administration coloniale se retrouva à devoir arbitrer de nombreux conflits de reconnaissance qu'elle avait elle-même contribué à créer et dont elle ne savait plus comment se sortir, en particulier lorsque ces conflits comprenaient des dimensions religieuses. Dans la province de Madras, la caste des Nadars obtint par exemple des autorités coloniales d'être reconnues comme Kshatriya lors du recensement de 1891. Sur cette base, un groupe de Nadars pénétra en 1897 dans l'enceinte du temple Minakshi de Kamudi, provoquant le scandale parmi les groupes de haute caste en charge des lieux. Les tribunaux coloniaux décidèrent finalement de faire payer aux Nadars le coût des rituels de purification rendus nécessaires par leur intrusion. De multiples conflits mettaient également en jeu l'usage de divers lieux publics pour les processions. Les autorités britanniques étaient particulièrement perplexes face à un certain nombre de groupes de statut élevé au niveau d'une région particulière, comme les Kayastes au Bengale, les Marathes dans la région de Mumbai, les Velalars près de Madras, qui avaient toutes les apparences de haute caste, mais qui ne s'inscrivaient dans aucun des Varnas. Des travaux ont montré comment des groupes qui initialement n'avaient pas d'identité de haute caste clairement définie, comme les Baniyas, se mirent, à la fin du XIXe siècle, à reprendre des normes très strictes de pureté familiale ou alimentaire, par exemple en interdisant le remariage des veuves, en s'imposant des règles végétariennes très strictes et en bannissant les contacts avec les castes moins pures, leur permettant ainsi de se rattacher aux deux fois nés et de se rapprocher des brahmanes dont l'existence unifiée était proclamée et sanctionnée par les recensements. L'Inde coloniale et la rigidification des castes. De façon générale, même s'il est évidemment impossible de dire comment le pays aurait évolué en l'absence de la colonisation, l'un des effets des recensements coloniaux et de cette étonnante bureaucratisation des catégories sociales semble avoir été de rigidifier considérablement les frontières entre les castes. En donnant une existence administrative précise à l'échelle de l'Inde à des catégories qui n'existaient pas auparavant, ou tout du moins qui n'existaient pas sous une forme aussi tranchée et générale, et qui avaient principalement une existence locale, la colonisation britannique a non seulement interrompu le développement autochtone d'une société trifonctionnelle ancienne, elle semble en avoir figé les contours. De ce point de vue, il est frappant de constater que les proportions de la population classée au sein des hautes castes sont restées quasiment inchangées, non seulement entre 1871 et 1931, mais également jusqu'en 2014, en dépit de la croissance considérable de la population. Précisons que les recensements indiens ont cessé d'enregistrer les appartenances aux castes élevées depuis le recensement de 1931. Les Britanniques ont fini par réaliser l'ampleur des conflits identitaires et des questions de frontières sociales qu'ils avaient contribué à exacerber, et ils renoncèrent à l'entreprise lors du recensement de 1941. Quant au gouvernement de l'Inde indépendante, leur objectif était de mettre fin aux discriminations basées sur les castes, et ils cessèrent de poser des questions sur l'identité de caste, sauf pour les plus basses, comme nous le verrons plus loin. Plusieurs enquêtes ont toutefois continué de poser des questions à la population indienne sur les appartenances de caste. Et nous avons indiqué dans le graphique 8.4 et le tableau 8.2 les résultats obtenus à partir des enquêtes post-électorales menées à l'issue de la plupart des élections législatives en Inde de 1962 à 2014. Les deux sources sont donc fort différentes. Il s'agit de recensements concernant l'ensemble de la population dans le premier cas, sous l'autorité des agents recenseurs, et d'enquêtes fondées en principe sur l'autodéclaration, et portant sur quelques dizaines de milliers de personnes dans le second cas. Il est néanmoins intéressant de constater que les différentes proportions n'ont quasiment pas changé. La proportion de brahmanes au sein de la population hindoue oscillait entre 6% et 7% dans les recensements conduits de 1871 à 1931. Elle se situait à ce même niveau entre 1962 et 2014. La proportion de kshatriyas, en pratique principalement des Rajputs, était comprise entre 4% et 5% dans les recensements coloniaux de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Il en allait de même dans les enquêtes post-électorales de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. J'ai également indiqué sur le graphique 8.4, à propos de la rigidification des hautes castes en Inde entre 1871 et 2014, et le tableau 8.2, à propos de la structure des hautes castes en Inde à la même période, les proportions enregistrées comme Vaishya, Baniya, et comme Kayaste. On constate que ces deux groupes représentent au total entre 2 et 3% de la population hindoue tout au long de la période. Si l'on considère le total des hautes castes, en incluant ces deux derniers groupes, on constate qu'elles ont toujours représenté entre 12 et 14% de la population hindoue au cours de la période 1871-2014. Si l'on ajoutait les marathes, autour de 2% de la population, et d'autres hautes castes présentes dans certaines régions spécifiques, et dont l'appartenance aux hautes castes fait l'objet de nombreux conflits et controverses, on aboutirait à un total compris entre 15 et 20%. Suivant les définitions retenues. Afin de bien comprendre les enjeux derrière ces questions, il faut préciser que les conséquences de ces classifications se sont radicalement transformées au cours du XXe siècle. À la fin du XIXe siècle, il existait un enjeu fort d'être reconnu comme caste élevée, pour des raisons de prestige symbolique, mais aussi pour obtenir l'accès à certains temples, écoles, fontaines, citernes et autres lieux publics. À la fin de la période coloniale, en particulier dans l'entre-deux-guerres, les autorités britanniques, sous la pression des mouvements indépendantistes, commencent à abolir les règles discriminatoires à l'encontre des basses castes, et notamment des intouchables, et à mettre en place, au contraire, des mesures d'accès préférentiel visant à corriger les discriminations passées. Ce n'est cependant qu'avec l'avènement de l'Inde indépendante, 1947, que les discriminations anciennes seront définitivement abolies et qu'une politique systématique de discrimination positive sera appliquée. John Hutton, commissaire du recensement de 1931, note que les signes « Untouchables Excluded » étaient encore très nombreux dans les restaurants et coiffeurs de Madras en 1929. Le leader indépendantiste, Periyar, quitta en 1925 le Parti du Congrès, qu'il jugeait trop timoré dans son combat pour imposer aux deux fouanés les plus conservateurs l'ouverture de tous les temples aux basses castes et pour mettre fin aux repas séparés entre élèves brahmanes et non-brahmanes dans les écoles. Il considérait que l'on pouvait obtenir plus et plus vite. Ambedkar, premier intouchable diplômé en droit et en économie de l'Université Columbia et de la London School of Economics et futur rédacteur de la Constitution indienne de 1950, éprouva, quant à lui, les plus grandes difficultés à exercer comme avocat dans l'Inde des années 1920. Il contribua à lancer le mouvement des Dalits, cassés en sanskrit, ainsi qu'Ambedkar proposait d'appeler les ex-intouchables, et brûla publiquement le Manusmriti en 1927 lors des grands rassemblements Dalits à la citerne de Shavadar, Maharashtra. Ambedkar invita plus tard les Dalits à se convertir au bouddhisme. Il était convaincu que seule une remise en cause radicale du système religieux hindou permettrait de détruire celui des castes et de mettre fin aux discriminations anciennes. Il s'opposait vigoureusement à Gandhi, qui, à l'inverse, jugeait très irrespectueux de brûler le Manusmriti, Gandhi défendait les brahmanes et l'idéal de solidarité fonctionnelle des Varnas, et appelait les Harijans, enfants de Dieu ainsi qu'il nommait les intouchables, à prendre toute leur place au sein de l'hindouisme. Aux yeux de nombreux Indiens de haute caste, cela signifiait aussi et surtout adopter un comportement et des normes familiales, alimentaires et hygiéniques plus proches de la pureté que les classes élevées entendaient incarner, un peu à la façon des mouvements paternalistes bourgeois de l'Angleterre victorienne visant à encourager la sobriété et les comportements vertueux parmi les classes laborieuses. Certains deux fois nés, proches de Gandhi, allèrent jusqu'à proposer aux intouchables, aux aborigènes et même aux musulmans une conversion symbolique à l'hindouisme pour marquer leur retour plein et entier dans la communauté hindoue et leur entrée dans une vie pure. Par ailleurs, chacun sentait bien au cours des années 1920-1930 que le système colonial n'était sans doute pas éternel et des négociations étaient en cours avec les Britanniques pour étendre le droit de vote et donner plus de pouvoir à des assemblées indiennes élues. Les autorités coloniales avaient commencé à instituer des électorats censitaires séparés pour les hindous et les musulmans avant la Première Guerre mondiale, en particulier au Bengale, en 1909, une décision qui, pour beaucoup, fut le premier acte menant à la partition avec le Pakistan et le Bangladesh en 1947. À la fin des années 1920, Ambedkar défendit lui aussi l'idée d'électorats séparés, mais cette fois pour les Dalits et les hindous non Dalits. Il considérait que c'était la seule façon pour les anciens intouchables de pouvoir s'exprimer, d'être représentés et de se défendre. Gandhi s'y opposa vigoureusement et commença une grève de la faim. Les deux leaders indépendantistes trouvèrent finalement un compromis avec le pacte de Pune en 1932. Les Dalits et les hindous non-Dalits voteront ensemble pour élire les mêmes députés, mais une partie des circonscriptions, en proportion de leur part dans la population, sera réservée pour les Dalits, dans le sens où seuls des candidats Dalits pourront se présenter. C'est le système de réservation qui sera mis en place dans la Constitution de 1950 et qui s'applique toujours aujourd'hui. Lors du recensement de 1931, il avait été estimé que les outcasts, tribes et autres depressed classes, comme on appelait alors les intouchables et autres catégories discriminées dans la langue administrative britannique, et qui deviendront par la suite les scheduled castes et les scheduled tribes, regroupaient quelque 50 millions de personnes, soit environ 21% des 239 millions d'hindous. À la fin des années 1920, des mouvements indépendantistes avaient lancé dans plusieurs provinces des opérations de boycott du recensement, qui recommandaient de ne pas indiquer de jati ni de varna aux agents recenseurs. Petit à petit, on passa d'un système où les recensements visaient à identifier les élites et les hautes castes, parfois pour leur garantir explicitement des droits et des privilèges, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, à une logique visant au contraire à identifier les plus basses castes dans le but de corriger les discriminations passées. En 1935, alors que des systèmes d'accès préférentiel à certains emplois publics étaient expérimentés par le gouvernement colonial pour les scheduled castes, on constata que certains jatis, qui s'étaient mobilisés dans les années 1890 pour être reconnus comme chatriya et obtenir l'accès à certains temples et lieux publics, se mobilisaient à présent pour être considérés comme faisant partie des plus basses castes. Cela démontre de nouveau la plasticité des identités individuelles et leur adaptabilité aux incitations contradictoires créées par le pouvoir colonial. Il est intéressant de noter que les premiers mécanismes visant à limiter la mainmise des castes privilégiées sur les places à l'université et les postes de la fonction publique avaient été expérimentés dès 1902 au sein de l'État princier marathe de Kolhapur. Le roi de Kolhapur s'était senti humilié devant sa propre cour quand les brahmanes locaux lui avaient interdit une lecture rituelle des Védas, au motif que ses origines shudras ne lui permettaient pas une telle chose. Furieux, il avait aussitôt fixé un quota de 50% pour que les non-brahmanes puissent occuper des postes élevés au sein de son administration. Des mouvements similaires se développèrent à Madras avec la création du Parti de la Justice en 1916, ainsi que dans l'État princier de Mysore, Karnataka, en 1918, où le souverain et les élites non-brahmanes supportaient de plus en plus mal que 3% de brahmanes occupent 70% des places à l'université et des postes les plus importants de la fonction publique, de la même façon qu'à Kolhapur. Un mouvement similaire voit le jour sous l'impulsion du Parti de la Justice dans le Tamil Nadu en 1921. Dans le contexte de l'Inde du Sud, où les élites brahmanes n'étaient parfois pas loin d'être traitées par les autres groupes comme des intrus venus du Nord, presque comme les Chinois en Malaisie, bien qu'elles y soient installées depuis de nombreux siècles, ces politiques de quotas prirent une tournure anti-brahmane relativement radicale dès avant l'indépendance. Par comparaison, le Parti du Congrès, qui compte en son sein de nombreux représentants progressistes des hautes castes d'Inde du Nord, à commencer par Nehru et Gandhi, défendra toujours des positions beaucoup plus modérées concernant les réservations. Il faut certes aider les plus basses castes à progresser, mais cela ne doit pas retirer toute chance aux castes les plus élevées de faire valoir leurs talents et d'en faire bénéficier le reste de la société. Ces conflits allaient prendre toute leur ampleur dans les décennies suivantes.